Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Marie-Béatrice Lahorgue.
Madame Catherine Lalumière, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Canal Academy pour une émission que nous avons intitulée « Covadis Europa ». Unis dans la diversité depuis 50 ans et plus. Vous êtes avant tout femme politique française.
Femme politique, j'ai fait de la politique, je suis fondamentalement plutôt une universitaire et une enseignante.
Voilà, alors j'allais dire, vous êtes
c'est
avant
mon vrai
tout,
métier.
Voilà, c'est votre vrai métier, mais vous venez d'un métier qui est celui effectivement de l'enseignement, puisque vous êtes docteur en droit public et en sciences politiques. Vous avez été pendant très longtemps maître de conférence en droit public auprès des universités de Rennes, de Bordeaux et de Paris 1, si je ne me trompe.
C'est exact.
Avant de vous engager sur une autre vocation,
voilà.
C'est-à-dire la voie politique, puisque vous avez été de 1980 à 1989 député socialiste de la Gironde, puis de 80 à 86 secrétaire d'État et ministre au gouvernement de Pierre Mauroy. Vous avez été aussi secrétaire d'État chargé des affaires européennes de 1984 à 1986 au sein du gouvernement de Laurent Fabius. Il faut préciser ici que vous êtes dans les archives du Quai d'Orsay, mentionnée comme étant la première femme à avoir occupé un poste ministériel en qualité de secrétaire d'État. Cela méritait d'être souligné tout de même. De 1989 à 1994, vous êtes secrétaire général du Conseil de l'Europe, puis jusqu'en 2004, députée au Parlement européen et vice-présidente du Parlement européen de 2001 à 2004. Vous êtes aussi auteur de plusieurs rapports et études. C'est sans doute là d'ailleurs la vocation universitaire et pédagogique qui ressort derrière la femme politique, en particulier sur des thèmes autour des droits de l'homme dans le monde, sur la politique extérieure et de sécurité commune, la politique européenne de sécurité et de défense, les relations entre l'Union européenne et la Russie, la culture et l'Europe. Nous verrons, et ce sera l'axe central aujourd'hui de notre rencontre, que vous êtes très intéressé aux questions de culture, de diversité culturelle, d'interculturalité. Vous avez aussi écrit sur la fonction publique européenne et en particulier l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Vous êtes membre actif aussi de plusieurs associations à vocation européenne, car l'Europe est au cœur de votre engagement.
Oui, désormais, c'est vraiment l'Europe.
C'est l'Europe, désormais. Vous êtes vice-présidente du Mouvement européen international, présidente de Relais Culture Europe, présidente de la Fédération des Maisons de l'Europe. Vous êtes une infatigable militante de la cause européenne. Madame Lalumière, ai-je oublié quelque chose ?
Je crois qu'en matière européenne, quand on est contaminé par le virus, on l'est pour toute sa vie.
Alors vous me disiez en préparant cette émission que vous êtes aussi présidente ou vice-présidente d'une...
Oui, on m'a demandé de présider le réseau des écoles de la démocratie qui ont été créées à partir de 1989 dans les pays d'Europe centrale et orientale. La première de ces écoles de la démocratie a été créée à Moscou. Et depuis lors, il y en a dans 13 pays. Et j'y attache de l'importance parce que école de la démocratie dans tous ces pays, c'est lourd de conséquences. Et ces écoles de la démocratie ont été des pépinières des dirigeants des nouveaux régimes. Et ça, j'ai toujours soutenu ces écoles. On me demande maintenant d'être à la tête du réseau, d'assurer la présidence. J'insiste là-dessus, même si, au point de vue honorifique, c'est très peu de choses. Mais la bataille a été rude, elle n'est pas terminée.
Elle n'est pas terminée. Nous allons, très logiquement, nous tourner tout de même vers ces maisons de l'Europe, fondée il y a plus de 50 ans.
Oui, en fait, les maisons de l'Europe ont, dans la plupart des pays de la communauté à l'époque, ont été créés généralement dans les années 50, puis ensuite ça s'est égrené au fil des années. Et aujourd'hui, en France, il y a une trentaine de maisons de l'Europe. Je ne donne pas un chiffre précis parce que Il y a des maisons qui sont en voie de création, d'installation, qui sont dans la salle d'attente, en quelque sorte. Donc, c'est une trentaine.
C'est une trentaine pour la France.
Pour la France.
Et en Europe, l'ensemble des pays européens s'est converti.
En fait, les chiffres n'ont pas grand sens parce que les formules sont tellement différentes les unes des autres. Il y a autour de 150 entités qui se réclament de la dénomination maison de l'Europe. Mais il y a une très, très grande variété. Ce n'est pas très homogène tout cela.
Alors, quel est l'objectif, quelle est la mission de ces maisons de l'Europe ? Politique, culturelle, éducatif, tout
ça ? En fait, là aussi, grande variété. Mais si on prend le cas français, par exemple, on assiste à une évolution. Au départ, notamment les premières maisons de l'Europe étaient des cercles de gens intéressés par les questions européennes, militants de la cause européenne et qui éprouvaient le besoin de se réunir pour parler de l'Europe et éventuellement pour se transformer un petit peu en lobbyistes de l'intégration européenne. Mais c'était des maisons relativement fermées, c'était des cercles, c'était des clubs en quelque sorte. Et généralement réunissant des personnes qui avaient quand même un niveau d'instruction assez élevé. C'était le cas aussi du mouvement européen. C'était un petit peu cela à l'origine. Puis les années ont passé, l'Europe s'est construite. On est maintenant dans l'Union européenne, fortement intégrée, qui émet des règles dans pratiquement toutes nos activités. On est pour, on est contre, mais enfin c'est un fait. Et désormais, parce que l'Europe a réussi, d'une certaine manière, c'est indéniable, ce n'est plus l'affaire de cercles restreints, c'est l'affaire des citoyens. Et aujourd'hui, les maisons de l'Europe, et je pousse beaucoup en ce sens, ne doivent plus rester des cercles fermés, mais elles doivent s'ouvrir vers le grand public, vers l'opinion publique, vers le citoyen de base, fournir aux citoyens des informations, des explications pour que ce citoyen comprenne quelque chose à cette Europe qui souvent lui paraît menaçante, en grande partie parce qu'il y a une très mauvaise information, une très mauvaise compréhension des mécanismes européens. Donc vous voyez qu'au fil des années, en fait, ces maisons de l'Europe ont connu une évolution et doivent connaître cette évolution de cercles relativement fermés. Elles doivent devenir des maisons, disons, du citoyen européen.
En fait, vous évoluez dans le sens qu'évolue la démocratie dans l'Union européenne, c'est-à-dire d'une démocratie représentative un peu restreinte à une démocratie participative.
Je ne ferai pas de distinction là entre démocratie représentative et démocratie participative. La démocratie représentative a besoin de citoyens éclairés. Nous allons avoir l'an prochain des élections pour désigner les députés au Parlement européen. C'est de la démocratie représentative. Et malheureusement, il y a fort à parier que l'abstention sera très importante. C'est grave. Ce n'est pas du tout satisfaisant. Et que le lien entre les gouvernants et les gouvernés, entre le citoyen de base et les instances européennes, sera un lien très distendu. Les gens ne connaissent pas ces mécanismes, ils ne connaissent pas leurs députés européens, ils ne savent pas ce que fait le député européen. Donc, on est dans le cadre de la démocratie représentative et ça ne marche pas bien. Alors, la démocratie participative, elle marche encore moins bien. C'est-à-dire que nous avons des millions de nos concitoyens qui sont juridiquement citoyens européens. Le traité de Maastricht l'a décidé.
On va revenir sur la question de la citoyenneté, d'ailleurs, dans cette émission.
Mais un citoyen qui n'est pas éclairé, qui n'est pas informé, qui ne comprend pas de quoi il s'agit, ce n'est absolument pas satisfaisant.
À ce titre, auriez-vous considéré que soumettre à nouveau au référendum populaire la question du traité de Lisbonne, comme sont en train de le faire nos amis irlandais, était courir un risque ou donner une nouvelle chance à l'Europe ?
Personnellement, je n'aime pas les référendums ou les référendas comme on veut. Parce que c'est très rare qu'on puisse réduire un problème à une question
oui
à laquelle on
non.
puisse répondre
par oui ou par non.
Voilà. C'est, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Et lorsqu'il s'agit d'un traité aussi complexe que le traité de Lisbonne, puisque traité de Lisbonne il y a, franchement, le référendum n'a plus aucun sens. Alors, bon, on peut le regretter parce que consulter chaque individu, ça paraît très séduisant. En l'occurrence, je crois que ça n'aurait eu aucun sens. Je ne suis pas toujours d'accord avec le président Sarkozy, mais là, j'approuve
totalement
la procédure.
La démarche.
Voilà, voilà. Parce qu'il faut choisir entre les inconvénients. Hein. Si on a à nouveau un échec, ce qui n'est au jour où nous sommes,
pas exclu.
Encore exclu. L'Irlande doit se prononcer, le Royaume-Uni doit se prononcer. Donc, on n'est pas encore sorti de cette douloureuse affaire. Mais si il y a échec, les conséquences pour l'Europe sont vraiment très graves, très, très graves. Alors, en tout cas, en ce qui concerne la France, on n'a pas pris de risque et on a bien fait.
Et tant mieux. Puisque vous évoquiez l'ouverture aux citoyens de base des maisons de l'Europe, quelle place donnez-vous aux jeunes au sein de cette Europe et au sein des activités des maisons, justement ?
Eh bien, les jeunes font partie des citoyens.
Clairement.
Bon, ils n'ont peut-être pas encore toujours loin de
moi. Sont-ils formés, informés, sensibilisés ? Comment les sentez-vous, ces jeunes, aujourd'hui ?
Très insuffisamment informés des questions européennes. Bon, rares sont ceux qui manifestent des sentiments anti-européens. Non, d'une certaine manière, ils vivent l'Europe avec une certaine satisfaction, disons qu'ils consomment l'Europe. Quand ils ont la possibilité de voyager, ils sont ravis d'avoir la liberté de circulation, les programmes Erasmus, quand ils ont la chance d'avoir une bourse Erasmus, ils l'utilisent, ils sont très contents. Ils sont de plein pied des consommateurs d'Europe. Est-ce qu'ils adhèrent vraiment au projet européen ? Est-ce qu'ils comprennent les finalités du projet européen ? Est-ce qu'ils ont des connaissances qui leur permettent de maîtriser les grands choix ? Ça, c'est une autre affaire. Et j'ai la conviction, la triste conviction, qu'on est dans une situation très préoccupante. Que la plupart des jeunes consomment l'Europe, mais ne comprennent pas exactement ce dont il s'agit, ni pourquoi on a fait cela, ni les conséquences, ni le contexte dans lequel on est. Bon, ils ont une vision finalement très étroite. Et je le crains assez fragile. Parce que le consommateur, il veut que le produit à consommer soit dans le meilleur rapport qualité-prix et lui donne la plus grande satisfaction. Mais si le produit, à un moment donné, ne lui plaît pas, il le jette. Et ça, ce serait grave.
Si je me réfère à votre passé d'enseignante, d'universitaire, est-ce qu'aujourd'hui le projet sur lequel on va revenir européen a pris, selon vous, toute sa place justement dans le système éducatif, je dirais tant au niveau des plus jeunes, au niveau du secondaire, qu'au niveau de l'université ?
Là, vous mettez le doigt sur un de mes grands, très grands regrets. L'école, alors, quand je dis école, ça va de la maternelle jusqu'à l'université. C'est vraiment l'enseignement, n'a absolument pas pris en compte suffisamment le fait européen. Alors, quand je dis le fait européen, il y a quand même deux grandes catégories de questions. Il y a la connaissance des différents pays, des différents peuples, des différentes cultures. Bon, déjà, dans ce domaine-là, il y a des progrès à faire. On connaît mal nos voisins, on connaît mal leur histoire, on a souvent une vision déformée. Il y a vraiment beaucoup de progrès à faire.
On parle très mal les langues étrangères.
Tout à fait. Bon, donc la connaissance des Européens au pluriel est vraiment très insuffisante. Mais l'autre branche, la situation est encore pire. L'autre branche, c'est la construction européenne à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les dirigeants européens se sont mis d'accord pour créer des organisations, d'abord le Conseil de l'Europe, et ensuite la Communauté, aujourd'hui l'Union européenne, à un niveau interétatique ou même supra-étatique. Et ça, ce fait qu'on appelle la construction européenne, et qui est un fait relativement récent, les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, a une place minuscule dans la plupart des établissements d'enseignement. Très rares sont les disciplines ou les enseignants qui font une place à cette question. Très, très rares. Et là, alors, les progrès à accomplir sont à la fois nécessaires et immenses. on part de presque rien.
Rien. Et tout est à construire, y compris dans les futurs alors, programmes.
Il y a, dans le supérieur, il y a eu des progrès spectaculaires ces dernières années. Par exemple, dans les facultés de droit, il y a maintenant des enseignements sur les institutions européennes, des enseignements sur le droit communautaire et même sur des branches particulières du droit communautaire, le droit de la concurrence, par exemple. Mais nous sommes dans l'enseignement supérieur et dans certaines facultés. Clairement. Facultés de droit ou des établissements comme l'Institut
Sciences
d'études politiques, etc. C'est bien, il y a des étudiants qui ont vraiment des connaissances précises et même de haut niveau. Mais l'ensemble de la population est resté dans l'ignorance la plus totale.
Total. La mission de formation des Maisons de l'Europe est essentielle, on peut le dire
Elle
comme cela.
Elle doit devenir de plus en plus importante.
En même temps, à côté, vous avez une mission de, comment on pourrait dire, d'accompagnement, d'initiation, d'encouragement donc à cette démarche citoyenne, cette démarche participative de tous vers la construction de l'Europe. Un projet inédit qu'on peut noter des Maisons de l'Europe, ce sont les Assises européennes des citoyens et résidents des grandes métropoles, c'est cela, si je ne me trompe pas, qui est organisé dans le cadre de votre programme « Culture et politique ». Et qui réunira au mois de juin prochain, les 13 et 14 juin, donc c'est très bientôt à Paris, un certain nombre de partenaires. Dans quel objectif ?
Oui, alors en réalité, la Maison de l'Europe de Paris est pleine de dynamisme et d'imagination. Et si notre mission essentielle, la ligne que nous essayons de suivre, c'est de toucher, d'informer, d'expliquer les choses au maximum de citoyens, nous sommes dans un bassin de population qui est quand même qui dépasse 10 millions d'habitants, c'est assez vaste. Bon. Donc c'est notre ligne directrice principale, mais pour atteindre cet objectif, nous utilisons toutes sortes de moyens. Nous organisons des conférences débats, parfois des séminaires, des colloques, ça peut durer plusieurs jours, etc. Donc il y a toutes sortes de formules. Et les assises auxquelles vous faites allusion vont s'étaler sur deux jours consacrés à un thème. Nous ne sommes pas des spécialistes de la question, mais on a considéré que ce thème était suffisamment important aujourd'hui pour qu'on y consacre deux journées pleines en faisant venir des personnes de différents pays d'Europe. Il y aura des Bulgares, il y a des Polonais, il y a des Slovènes, il y a évidemment des Espagnols, des Italiens, des Britanniques, etc. etc. Sur quel thème ? Bien, ce thème, c'est la vie et la citoyenneté dans les grandes villes, les grandes métropoles, notamment les capitales, mais disons plus généralement les grandes villes. Bon. Où se posent quantité de problèmes et on s'aperçoit que ces problèmes sont généralement traités par les élus. Il y a des réseaux de collaboration entre les maires des grandes villes. Ils se réunissent assez souvent, ils se connaissent très bien. On a également des réseaux d'Européens, de différents pays, au niveau des experts. Qui se réunissent, qui se connaissent, qui échangent leurs analyses, très bien. Au niveau des citoyens de base, il n'y a pas de contact, très peu de contact. Et ça nous a semblé très regrettable. Et c'est pourquoi, dans ces assises, nous faisons venir des représentants d'associations de base, en contact avec les citoyens eux-mêmes, de façon que, je sais pas, un habitant de Sofia, par exemple, en Bulgarie, confronte ses analyses, ses besoins, ses aspirations avec un Parisien, avec un Londonien, avec un Italien de Rome ou de Milan. Voilà. C'est toujours ce souci de la vie des gens. Alors, bien sûr, on a forcément des échanges interculturels.
Interculturels.
Absolument. Des échanges d'expériences, Alors, on peut échanger des expériences sur la manière d'enlever les ordures ménagères. Hein, vous savez que c'est un des problèmes des grandes villes.
Italien en particulier. Bon,
et là, exactement. Donc, ce sont des problèmes de la vie quotidienne, mais où les échanges d'expériences sont parfois très, très utiles. Comment se débrouille-t-on ? Qui a trouvé la solution miracle ? Bon, alors là, je prends un exemple d'actualité.
Terre à terre,
oui,
en plus, terre
mais,
à terre.
Qui était un vrai problème. Et puis, on va parler également d'autres questions sur, par exemple, la manière de traiter les étrangers, les immigrés, par exemple. C'est un problème qu'on retrouve dans toutes les villes, et notamment dans toutes les grandes villes. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est intéressant d'échanger les points de vue des uns et des autres.
Alors justement, depuis le début de notre émission, vous avez évoqué à plusieurs reprises le projet européen. Vous avez parlé du projet européen, d'un projet européen. Lorsqu'on parle et lorsqu'on évoque le traité de Lisbonne, nos concitoyens aperçoivent approximativement ce dont on parle. Lorsqu'on évoque le projet européen, c'est beaucoup moins certain. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette question dans la deuxième partie de notre émission, après une courte pause.
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Aujourd'hui, donc, je reçois en invité Madame Catherine Lalumière. Et nous allons aborder dans cette deuxième partie de notre émission le sens du projet européen, justement. Quel sens, Madame Lalumière, est-il possible de donner à ce qui est inscrit au fronton du traité de Lisbonne, à savoir un ou le projet européen ?
Le projet européen.
Le projet européen.
La réponse devrait être évidente. Je pense qu'elle a été évidente au début. Les pères fondateurs, après la Seconde Guerre mondiale, et après avoir beaucoup observé l'Europe, leur chère Europe, avant la guerre et pendant la guerre, y compris dans les camps de concentration, les camps de prisonniers, ces pères fondateurs savaient très bien quel était leur projet. C'était la paix, plus jamais ça, plus jamais la guerre. Mais ce n'était pas simplement la paix, c'était comment faire pour que cette Europe raffinée, cultivée, de haute civilisation, ne sombre pas dans la barbarie. Parce que quand même, notre chère Europe, assez orgueilleuse de sa culture et de son histoire, avait quand même, en quelques années, accouché du nazisme, du fascisme, du stalinisme, du franquisme. Bon, dans l'horreur, c'est pas mal. Et tous ces intellectuels et responsables politiques, enfin tous ceux qui étaient conscients des choses, se disaient « mais nous risquons de recommencer ». Si l'Allemagne, vraiment qui avait la quintessence de la culture européenne dans ses mains après la Première Guerre mondiale, a pu, quelques années après, connaître le nazisme, on peut retomber à tout moment. Il faut absolument se prémunir contre ces dangers. Et le projet européen tel que conçu par les fondateurs, c'était construction de la paix, pour éviter le retour de la guerre, et de la paix par le respect de certaines valeurs fondamentales qui devaient être des antidotes au dérapage, et notamment aux conséquences de l'hypernationalisme et du retour de la barbarie. Donc, à l'époque, il y a un projet qui est très clair et qui va s'exprimer notamment dans le fameux congrès de La Haye de 1948, qui est un petit peu considéré comme le point de départ de la construction européenne. Et le premier texte européen qui est adopté dans cette optique-là, c'est la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, juste après la création du Conseil de l'Europe. C'est d'ailleurs le premier travail du Conseil de l'Europe. Ils ont commencé par ça. C'est-à-dire, c'est un projet de civilisation fondé sur des valeurs culturelles, au sens le plus large et le plus noble du mot culture. Par la suite, on va s'intéresser à autre chose, et notamment à l'économie. Et c'est d'ailleurs très bien qu'on s'en soit occupé, car l'Europe avait besoin de reconstruire son économie après le conflit mondial. Et c'est le traité de Rome, 1957, qui ne s'occupe que d'économie. Non pas qu'on abandonne les valeurs adoptées précédemment, mais on considère que ça y est, le travail est fait, on s'est mis d'accord sur des principes de démocratie pluraliste, sur le respect des droits de l'homme, sur l'esprit de réconciliation, de tolérance, etc. etc. On pourrait détailler toutes ces valeurs qui sont le socle culturel de ce projet européen, mais on en parle plutôt, on met l'accent sur les problèmes économiques. Normal, très bien. Le traité de Rome est un grand traité et il a beaucoup de succès et c'est la communauté économique européenne qui se met en place avec des résultats quand même très spectaculaires. Malheureusement, petit à petit, on n'a plus parlé du projet. On a considéré que c'était acquis. Mais les générations disparaissent, d'autres arrivent et on s'aperçoit qu'il y a maintenant des millions de gens de la génération qui a 45-50 ans.
Qui n'a pas connu la guerre, en fait. La génération
qui n'a pas connu la guerre. Qui a été tout de suite immergée dans cet univers de la communauté économique européenne.
Au sens le plus consumériste.
Ou au sens consumériste, au sens matérialiste.
Matérialiste.
Nous sommes dans un contexte extraordinairement matérialiste, qu'on soit de droite ou de gauche, d'ailleurs. Ça, c'est une chose qu'on a en commun. Ce qui compte, c'est l'économie. Et je dirais de façon un peu triviale, mais ça exprime assez bien ma pensée, le monde de l'argent. Alors, je ne dis pas que nous soyons des purs esprits et qu'on n'ait pas besoin de biens matériels. On a besoin d'argent, on a besoin de pouvoir d'achat, on a besoin d'être logé, d'être nourri. Bon, c'est vrai, et c'est même très important. Mais on a besoin aussi de nourrir son esprit. Et on a besoin d'avoir des lignes directrices. On a besoin de savoir vers quoi on va, qu'est-ce qu'on veut faire, et notamment en matière européenne. À la limite, si vous voulez, je caricature, mais pourquoi s'ennuyer avec les directives de Bruxelles, avec des règles des uns des autres, avec toutes ces contraintes européennes, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Et vous avez maintenant énormément de gens qui sont incapables de répondre à cette question. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'on cherche à faire?
Quel projet?
Et alors, quel est le projet? Quel est le projet? Et vous avez, j'ai fait quantité de campagnes électorales dans ma vie, y compris pour l'Europe, et je suis effaré de voir à quel point les gens, quand on leur pose cette question, vous regardent avec des yeux écarquillés en disant « mais on n'a pas de réponse, on ne sait pas, on ne sait pas ». On a fait l'Europe parce que c'était une lubie de quelques technocrates en mal d'occupation. On a perdu le sens du projet et par voie de conséquence, lorsqu'il y a telle ou telle directive, telle ou telle décision, on se demande vraiment ce qu'on cherche à faire.
Lorsque le citoyen exprime son besoin d'une Europe autre, c'était un peu le besoin d'ailleurs qui a été exprimé à travers le refus.
Une autre Europe.
Une autre Europe ou une Europe autre, une autre Europe, oui. Est-ce que cela ne recouvre pas finalement cette nouvelle dimension culturelle, peut-être, que chercheraient à atteindre ces citoyens? Est-ce que la notion de citoyenneté européenne aujourd'hui ne recouvre finalement plus seulement des notions économiques, de pouvoir s'installer, de pouvoir voyager, mais des dimensions à valeur plus humaine, humaniste et plus large?
J'aime votre question parce que je crois en effet que parmi toutes les causes de mécontentement, y compris de mécontentement à l'égard des décisions européennes, il y a de multiples causes, je ne vais pas toutes les énumérer, mais parmi toutes ces causes, il y a cette image de l'Europe qui, depuis 50 ans, a déformé le projet européen. L'image est devenue froide, l'image d'une organisation qui ne s'occupe que de questions matérielles, j'y reviens, que d'intérêts économiques, que d'argent. Et c'est une image métallique, en quelque sorte, et qu'on n'aime pas. On n'aime pas le marché. On n'aime pas une monnaie. On apprécie en termes quantitatifs et objectifs et rationnels, mais il n'y a pas d'affection là. Pour être un citoyen éprouvant un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, il faut des sentiments. Il faut ressentir un attachement, quelque chose qui va bien au-delà des critères purement matériels. Et le fait qu'on ait hypertrophié l'image économique et matérialiste de l'Europe et atrophié tout ce qui relevait de la culture,
des sentiments,
de l'idéal, des valeurs, de la pensée, ce déséquilibre hypertrophie d'un côté, atrophie de l'autre, au total déformation de l'image de l'Europe, je crois que c'est une des raisons de la désaffection, oui. Alors, c'est exprimé de façon confuse ou indirectement par les gens, mais si je suis arrivée à cette constatation, j'allais dire cette conclusion, mais enfin, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est pas définitif, mais qu'il était très grave d'avoir perdu le sens du projet européen, c'est parce que j'ai rencontré des centaines, peut-être des milliers de gens qui, en fait, exprimaient cela. C'est-à-dire, on n'aime pas l'Europe, on n'aime pas cette Europe où on ne parle que de chiffres, où on a un langage technicien froid. On se sent, face à cela, comme un numéro, un petit pion, on ne compte pas. Et le résultat est très, très grave, hein, politiquement très grave. Et je consacre des forces qui me restent à essayer de rétablir ce deuxième volet de la construction européenne, ce volet culturel, mais qui est aussi un volet très politique, ce qui donne un sens à la construction européenne. Alors, évidemment, le contexte a changé par rapport à ce qu'il était en 1945. En 1945, on cherche la paix, on cherche à conjurer le retour des totalitarismes, on se dresse contre l'Union soviétique de Staline, etc. C'est clair, au XXIe siècle, les problèmes sont différents. Mais nous avons aussi des défis qui ressemblent à ce qui existait en 1945. L'Europe aujourd'hui est un petit continent isolé au milieu d'une mondialisation qui, par certains côtés, est une menace. Alors la mondialisation, elle offre des possibilités magnifiques. Je ne suis pas contre la mondialisation, d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens d'être contre un fait qui est là. Bon. Donc il ne s'agit pas d'être contre la mondialisation. Il s'agit de bien voir que, à côté des grands avantages qu'offre la mondialisation, le petit navire européen risque quand même d'être terriblement chahuté et d'être mis en péril. Et quand je dis le petit navire européen, je pense à la civilisation européenne, à la culture européenne, à ce que nous avons mis des siècles et des siècles à construire ensemble. Alors, c'est difficile de définir la culture européenne, la civilisation européenne. D'autres que moi le feront beaucoup mieux. Je pense à des gens comme Edgar Morin, Guéremec et beaucoup d'autres, historiens, philosophes, penseurs en tout genre. Je pense notamment à Denis de Rougemont qui avait beaucoup travaillé sur ces questions, justement dans l'entre-deux-guerres et juste après la guerre. Enfin, bref, on peut écrire des pages et des pages sur cette culture européenne, quelle est-elle, la civilisation européenne, quelle est-elle. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des choses bien, il y a eu des choses mal, il y a eu toutes sortes de choses à dire. Mais si on est quand même attaché globalement à cette culture européenne, on a besoin d'outils institutionnels pour défendre. Et c'est le projet de la construction européenne. Bon, si je m'intéresse à la construction européenne, si j'ai consacré des années de ma vie au Conseil de l'Europe ou à l'Union européenne, au Parlement européen, etc., c'est pas pour les institutions. C'est parce que ces institutions avaient pour tâche de défendre ce que j'aime, qui est la culture européenne.
Alors justement, à propos de ces institutions, lors du préambule du traité de Nice, qui est le traité sur l'élargissement de l'Union européenne, et donc la réforme des institutions qui doit obligatoirement s'accompagner, on trouve l'expression de l'Europe en partage, proposition ambiguë dont la conception philosophique ou politique était en tout cas au moment de Nice, la mise en commun acceptée, volontaire, et la perte d'une appartenance exclusive, si je puis dire, en contrepartie. Est-ce qu'on est allé trop loin aujourd'hui dans cette notion d'Europe en partage, dans l'ensemble de ces propositions ? Est-ce qu'on est allé trop loin dans Lisbonne ? Est-ce qu'on est allé trop loin aussi en ouvrant des portes vers certains, je pense à la Turquie par exemple, et puis en les refermant petit à petit, comme nous venons de le voir avec l'adoption de cet amendement parlementaire dans le cadre de la réforme de nos institutions qui vise à soumettre à l'avenir au référendum, même si vous n'aimez pas ce processus référendaire, à soumettre au référendum donc populaire toute nouvelle candidature de tout nouveau pays ayant plus de 5%, je crois, de la population totale européenne, ce qui vise de fait et de droit la Turquie.
Alors, l'expression « l'Europe en partage », je ne l'utilise pas parce que je n'en comprends pas très bien le sens.
D'accord.
En fait, il y a plusieurs sens dans l'Europe en partage, me semble-t-il. Mais le contenu de votre question me laisse penser que ce qui vous intéresse, et ce qui est en effet très, très intéressant et très important, c'est de savoir notre conception du champ d'application de cette construction européenne. Est-ce que cette construction européenne doit rester relativement fermée ou est-ce qu'elle est au contraire une construction ouverte ? Autrement dit, est-ce que c'est une maison avec une porte et des serrures et on est cadenassé à l'intérieur ou bien au contraire, on laisse ouvert généreusement à tous les vents ? Alors, il faut bien voir que dès le début, les premiers textes sont étonnamment imprécis là-dessus. Et le traité de Rome, d'ailleurs, est lui aussi totalement imprécis. On dit que ça s'adresse aux peuples européens. Mais on n'a jamais défini ce qu'était l'européen.
Alors, dans Nice, on trouve l'appartenance au continent européen.
Alors, dans
Nice, géographique.
Voilà. Oui.
2000, quoi.
Voilà. Mais c'est quand même un peu plus précis, c'est vrai, mais enfin, ces imprécisions, elles ne sont pas fortuites, elles sont voulues. Puis on a des travaux préparatoires. Après la guerre, donc, au moment des débuts de la construction européenne, l'idée est d'être très ouvert. Et en particulier, après Yalta et la coupure de l'Europe en deux, les plus lucides des responsables politiques n'acceptaient pas la coupure de l'Europe en deux et le rattachement des pays d'Europe centrale de l'Est à l'Union soviétique. Et pour eux, c'était une blessure insupportable. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on ne s'est pas limité à la frontière Oder-Neisse, parce qu'on aurait été bien embarrassé en 1989 quand, enfin, on a pu réunifier la famille européenne. Donc, les pères fondateurs ont été très imprécis. Et ils ont bien fait, on s'en est félicité après. Alors, qu'est-ce qui, comment dirais-je, crée une certaine homogénéité dans les organisations européennes ? Bon, parce qu'elles n'ont jamais été quand même ouvertes à tous les vents. Pour y rentrer, il faut satisfaire un certain nombre de critères plus ou moins précis. Un élément géographique, oui, bien sûr, le continent tel que les géographes l'ont défini. Mais enfin, les géographes, c'est très arbitraire. La frontière de l'Oural, franchement, c'est pas très précis. C'est plus facile du côté ouest, parce qu'on a l'océan Atlantique. Donc là, on sait à peu près où ça s'arrête, quand même. Mais la frontière est a toujours été extrêmement arbitraire sur le plan géographique. C'est pas bon. Alors, on fait appel à l'histoire. C'est vrai que, puisque nous sommes voisins, nous avons partagé des siècles et des siècles d'histoire. On se connaît. Je ne sais pas si on se comprend, on s'est beaucoup battu.
On s'est fréquenté
et il y a eu beaucoup de mariages multiples dans tous les sens du terme. Donc, ça crée des liens, quand même. Bon. Et puis, il y a la culture, évidemment. Alors, on retombe toujours sur ces questions culturelles. Bon, une des caractéristiques de l'Europe, c'est la diversité de ses cultures. Alors, si c'est divers, ce n'est pas homogène. Oui, c'est divers, mais nous avons quand même des choses en commun. Et on retombe sur les valeurs fondamentales. La notion des droits de l'homme, par exemple, la notion de démocratie, qui, vaille que vaille, est quand même devenue une des caractéristiques de l'Europe, etc. Et puis, et ça c'est un élément récent, à la base de la construction européenne, le partage d'un projet politique. C'est vrai pour le Conseil de l'Europe, mais c'est encore plus vrai pour la communauté, c'est-à-dire lorsqu'on on s'attaque à une organisation qui sera supranationale. À ce moment-là, il y a vraiment un projet politique. Et il est vrai qu'on ne peut imaginer d'entrer dans ces structures communautaires que si on adhère à ce projet politique. Sinon, ça n'a strictement aucun sens. Et vous voyez la variété des éléments à prendre en considération. Et ça explique qu'on ait toujours été extrêmement prudent pour définir a priori qui sera admis dans le club. Parce que, bon, des éléments géographiques, oui, mais c'est pas très clair. Des éléments historiques, c'est peut-être un peu plus précis, mais c'est quand même pas très très précis. Des éléments culturels, oui, certainement, c'est très important, encore que les frontières, là aussi, sont parfois un peu floues. Et le projet politique. Et puis, il y a dans la philosophie de la construction européenne un petit peu un esprit missionnaire. C'est-à-dire qu'on doit convertir de nouveaux pratiquants, croyants. Et on y est encouragé. Alors évidemment, c'est contradictoire avec l'idée d'être dans un cercle fermé. Parce que les belles idées de démocratie, de droits de l'homme, on doit les faire rayonner. Et même le projet politique européen, si on peut voir adhérer des nouveaux convertis, qui s'en plaindra ? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que depuis le début, il y a cet esprit de prosélytisme, cet esprit missionnaire. Quand on est porteur de valeurs qu'on estime les meilleures du monde, il est très difficile de s'enfermer dans quelque chose de fermé. Alors, j'avance très prudemment en faisant la comparaison avec les grandes églises, notamment l'Église catholique, qui n'a jamais eu de son rôle une vision fermée, puisque porteur de sa vérité, elle a cherché, et c'est d'ailleurs normal, à répandre la bonne parole le plus largement possible. Ben, l'Europe est un petit peu comme ça.
Juste pour finir, parce qu'il faut malheureusement conclure, attendez-vous de la présidence française de l'Union européenne, de la prochaine présidence française de l'Union européenne, qu'elle soit messianique ?
Alors, que le projet européen soit un peu messianique.
C'est la femme politique que je m'adresse.
Bon, j'ai parlé du projet européen s'étalant sur des dizaines d'années. Alors, on peut peut-être employer le mot messianique. Une présidence aussi prestigieuse soit-elle, qui ne dure que 6 mois, je n'emploierai pas le terme de messianique. Je resterai quand même sur un registre moins ambitieux. Moins ambitieux. Donc, j'attends de la présidence française qu'elle parachève cette sortie de crise, c'est-à-dire la signature du traité de Lisbonne. Ça, j'espère que ça pourra se faire pendant cette période-là et ce sera vraiment un soulagement. J'y ajoute un certain nombre de gros dossiers qui sont d'ailleurs dans le programme de la présidence française et qui requièrent aussi des avancées aussi rapidement que possible. Je pense la politique de l'énergie, par exemple, c'est quelque chose de très grave, de très important. Il y a aussi en matière économique des mesures à prendre très importantes. Et j'y ajouterai, en insistant beaucoup là-dessus, les mesures sociales. Il y a une crise grave en Europe Et nous devons être très, très attentifs à cet aspect des choses. Tout n'est pas de la compétence de l'Union européenne. Beaucoup relève de la compétence des États. Mais il faudrait que pendant la présidence française, pendant les 6 mois, il y ait quand même des progrès importants. Il y a aussi d'autres priorités, je ne les énumère pas toutes. Donc il y a vraiment du pain sur la planche à court terme. Et j'espère que la présidence française le fera. Il y a aussi peut-être l'amorce de choses plus ambitieuses. La France, le président a annoncé qu'il accordait une haute priorité aux questions de défense. Or, dans ma vision mondiale, en quelque sorte, de la construction européenne, les questions de défense, les questions militaires sont extrêmement importantes, extrêmement importantes. L'Union pour la Méditerranée, c'est une très belle idée, c'est un très beau projet. Je regrette qu'il ait été lancé au départ avec peut-être un peu d'improvisation. Il a fallu faire machine arrière, c'est dommage. C'est regrettable, mais rien n'est complètement perdu. Et l'Union méditerranéenne est quelque chose d'essentiel. Pour l'Europe, son voisinage méditerranéen, qui est berceau d'ailleurs de la civilisation européenne, c'est un prolongement de nous-mêmes. Donc c'est essentiel. Je n'ai qu'un souhait exprimé, que ce ne soit pas présenté comme une alternative à une éventuelle adhésion de la Turquie. Je pense que là, nous risquerions de tomber de Caribe en Scylla si on fait comprendre que ce très beau projet pour la Méditerranée est là uniquement pour dissuader la Turquie d'entrer dans l'Union européenne. Je crains que ce ne soit à l'origine de malentendus graves et qu'il y aurait des conséquences politiques très regrettables.
C'est sur cette touche un peu nostalgique, mais quand même porteuse d'espoir.
Tout à fait porteuse d'espoir,
c'est comme ça que je l'entends, que nous allons nous quitter. Je vais vous remercier, Madame Catherine Lalumière, pour avoir partagé cet instant avec nos auditeurs, que j'invite à aller voir, visiter le site internet de la Maison de l'Europe de Paris, et puis que j'invite aussi à suivre l'actualité riche, très riche, européenne, qui va se dérouler
et en essayant d'aimer l'Europe.
Et en essayant d'aimer l'Europe. Merci à vous. Au revoir.